C'est la quatrième fois qu'il y a comme ça une marche impressionnante en direction de la capitale. On sait en tout cas qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont commencé, certains d'entre eux, par une marche qui n'était pas forcément d'ailleurs une marche au sens strict du terme, mais enfin en partant de diverses villes du pays, ça a commencé le 26 ou le 27 octobre, pour se retrouver à Islamabad le 31 octobre, et ça fait bientôt une semaine que la marche s'est transformée en sit-in, ce qu'on appelle un dharna en Inde comme au Pakistan, c'est-à-dire une foule de manifestants qui n'entend pas bouger jusqu'à ce que leur revendication soit satisfaite. Alors bien sûr, l'histoire de ce type de manifestation, et avec une certaine ironie, les gens aujourd'hui au pouvoir, à commencer le Premier ministre Imran Khan, s'étaient affirmés politiquement par une manifestation de ce type en 2014 contre le gouvernement d'alors. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va sortir de tout cela. Des négociations sont entamées entre le gouvernement et le cœur des manifestants et leur leader religieux, Fazlur Rahman. Ce qui est important, je pense, de noter, c'est que par rapport à des mouvements protestataires qu'on voit aujourd'hui aussi bien en Algérie, au Liban, voire en Irak, ici, même s'il y a une dénonciation de l'autoritarisme croissant du régime, on n'est pas dans un cas de figure de protestation démocratique. C'est un parti religieux qui est à la manœuvre. C'est un parti qui a exclu les femmes des manifestations et du sit-in et qui réclame en fait que la République islamique du Pakistan soit plus islamique qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Alors oui, voilà justement, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Fazlur Rahman et son parti ?
Alors Fazlur Rahman, c'est un personnage assez extraordinaire parce qu'il est à la tête d'une faction de ce parti, donc le parti des oulémas du Pakistan. Les oulémas, ce sont les clercs musulmans. C'est fondamentalement un homme politique. Fazlur Rahman, en bon politicien, si j'ose dire, a saisi une opportunité pour affirmer son parti sous une espèce de paradoxe. Aux dernières élections générales, la Jamaat-e-Ulema Pakistan, donc sa faction, n'a eu aucun élu à l'Assemblée. Mais c'est quelque chose d'assez fréquent au Pakistan. On sait bien que les partis islamistes qui jouent la carte politique ont une représentation au Parlement qui est faible, alors qu'ils ont une capacité de mobiliser dans la rue qui est considérable. Et on le voit encore une fois aujourd'hui, même si les manifestants, pour beaucoup, sont des étudiants venus des écoles coraniques, dont on sait qu'elles ont un rôle important dans les classes pauvres, dans la petite classe moyenne. Donc Fazlur Rahman s'est saisi d'une opportunité politique. Il est en train, je ne dirais pas de marginaliser les grands partis d'opposition qui, eux, se sont joints à sa marche et à sa dénonciation du gouvernement, mais qui ont bien pris garde de ne pas s'associer au sit-in et à la demande de renverser un gouvernement élu il y a un peu plus d'un an, même si, juste après l'élection et encore aujourd'hui, des questions ont été posées sur la véracité des résultats de cette élection générale de 2018.
Justement, les manifestants reprochent notamment au Premier ministre d'avoir manipulé les législatives de 2018. C'est un reproche qu'on entend dans le reste de l'opposition. Qu'en est-il réellement ?
Comme toujours, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations claires. Le jeu de mots qui circule, c'est de dire que ce gouvernement n'a pas été élu, elected en anglais, mais sélectionné, donc selected, but not elected. Selected, ça veut dire en fait qu'il aurait reçu le pouvoir de l'armée par le biais d'interventions plus ou moins discrètes des services de renseignement. Mais c'est évidemment le genre de choses qui peut circuler, mais qui est extrêmement difficile à prouver. En revanche, le choix d'affirmation d'Imran Khan, donc qui emprisonne les principaux leaders de l'opposition, fût-ce sous des raisons légitimes ou pas d'accusation de corruption ou de détournement de fonds, on sait bien que le cœur du problème, là, c'est pas la lutte contre la corruption, c'est affaiblir les forces politiques majeures. Donc ça laisse un espace à des agitateurs qui entendent redorer leur blason qui a été affaibli lors des dernières élections, mais qui ont aussi, encore une fois, un agenda qui est pour une bonne partie un agenda religieux. Ils veulent occuper un espace en sachant qu'ils sont eux-mêmes débordés sur leur droite par des groupes qui avaient fait de la même façon ce genre de sit-in à Islamabad il y a un an ou deux pour demander des lois anti-blasphème beaucoup plus fortes. Donc on est finalement dans une situation qui n'est pas très positive pour le pays. Probablement le mouvement ne devrait pas continuer, mais enfin on ne sait pas, celui d'Imran Khan avait duré pendant des mois. Ce qui est sûr, c'est que la demande première du mouvement, obtenir la démission du Premier ministre, est vraisemblablement vouée à l'échec. La question est de savoir, alors que des négociations entre le gouvernement et les manifestants sont en cours, quelle pourra être la porte de sortie ?
Oui, voilà, c'est ça. Vous avez anticipé ma dernière question. Est-ce que Imran Khan doit-il s'inquiéter ? Est-il en danger avec ce mouvement ?
Non, je ne pense pas qu'il soit en danger. Je veux dire, il ne va pas démissionner. Alors, ça serait tout à fait étonnant qu'il démissionne. Mais en revanche, évidemment, un mouvement comme ça, où en quelque sorte, on s'est saisi d'un outil qu'il avait lui-même utilisé contre un gouvernement précédent, ça l'affaiblit. Ce qui veut dire aussi que tout le discours très virulent qu'Imran Khan tient depuis début août, c'est-à-dire depuis que le gouvernement indien a modifié le statut du Cachemire sous son administration, Imran Khan a parlé de génocide, a parlé de risque de guerre nucléaire, a mené une campagne diplomatique tous azimuts, en partie en tenant un discours très dur pour son électorat. On voit bien que ce genre de discours, finalement, n'empêche pas qu'une opposition, y compris une opposition farouchement anti-indienne, comme celle du mouvement des oulémas du Pakistan, se retourne aujourd'hui contre lui. Donc oui, le gouvernement est affaibli, ce n'est pas pour autant qu'il risque de tomber demain. Mais les observateurs pakistanais considèrent à peu près tous que le scénario politique sera plus exactement le même après qu'avant ces immenses manifestations.